Radio Kapi. Oh, Kapi. Bili Ivan Lutumba pour les journaux.
On en saura un peu plus seulement demain vendredi sur la suite que le Sénat réserve au projet de loi électorale en plénière à la Chambre haute du Parlement. La commission PAJ chargée du toilettage de ce texte n'a pas pu finaliser la correction en dépit des orientations du président de cette institution. Des officiers supérieurs des armées ougandaises et congolaises discutent depuis cet après-midi à Kasindi-Lubira dans le Nord Kivu. Objectif, parvenir à la neutralisation du groupe armé ADF et mieux sécuriser les frontières entre la RDC et l'Ouganda. Un mot sera dit sur les retombées du verdict dans l'affaire Batoumiké bien avant de parler de la sensibilisation des habitants de la commune annexe de Lubumbashi sur la plantation des arbres. Et Nathalie Kambala, notre invitée, va s'entretenir avec Karine Damousseau sur les 16 jours d'activisme contre les violences liées au genre. Bienvenue et bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur Radio Capi pour vous informer. L'actualité de ce soir part du Sénat où l'on vient de voter le budget 2018 et la loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2016 en de même termes que l'Assemblée nationale. Le Sénat a cependant renvoyé à demain, vendredi, l'examen et le vote article par article du projet de loi électorale. La commission PAJ chargée du toilettage de ce texte n'a pas pu finaliser la correction en dépit des orientations données par Léon Kengo Andondo. Michel Kifindangoy.
La divergence autour du seuil, de la caution et de la machine à voter continue à persister au niveau de la commission PAJ, malgré les propositions du président du Sénat. Léon Kengo Adondo, qui reconnaît l'importance des réformes du seuil électoral, estime qu'une option soit levée en tenant compte du consensus politique. Il propose à cet effet que le seuil soit élagué du projet de loi sous examen et renvoyé au prochain processus électoral, ou alors qu'il soit ramené à un pourcentage raisonnable, mais au niveau de la circonscription. À propos de la caution, le président du Sénat propose qu'elle soit progressive. Cependant, jusqu'à la fin de la journée, la commission PAJ n'a pas pu trouver un compromis sur ces points qui fâchent. L'examen et le vote article par article du projet de loi électorale est donc renvoyé à ce vendredi, avant la clôture de la session de septembre, le temps pour la commission de trouver un consensus acceptable par tous sur les dispositions concernant les seuils, la caution et la machine à voter. Des palais du peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
Parlons toujours de ce projet de loi. La plateforme soutien à Étienne Tshisekedi 7 dit le soutenir. Au cours d'un point de presse tenu hier mercredi à Kinshasa, Roger Lumbala confirme que l'actuelle loi est bonne pour éviter la prolifération des partis politiques et la délimitation du nombre des candidats aux différents scrutins. Par la même occasion, le président du 7 a annoncé la suspension de la participation de sa forte plateforme aux réunions du rassemblement El Kassavubu. Roger Lumbala, président du 7, est au micro de Richard Junior Kamunga.
Je trouve que la loi électorale, elle est correcte et elle va assainir l'environnement politique de notre pays par le fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte 700 partis politiques. Et sur la table du ministre de l'Intérieur, il y a 285 partis politiques qui attendent leur agrément. Donc si nous laissons cette situation comme ça, nous allons nous retrouver avec 1000 partis en République démocratique du Congo. Je pense que aujourd'hui, avec le seuil qui est donné de 1%, c'est une référence valable. Qu'est-ce que c'est le seuil? Le seuil, c'est le nombre de votants multiplié par 1 sur 100. Est-ce que c'est normal que pour 500 sièges que nous puissions avoir 19 000 candidats? C'est ça ce que nous avons vécu en 2011. Cette fois-ci, nous aurons 40 000 candidats pour les 500 sièges. Ce n'est pas normal. C'est cet aspect-là qui pousse Roger Lumbala aujourd'hui à accepter ces conditions.
Pour sa part, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement dans le Grand Katanga accepte le calendrier électoral tel que proposé par la Commission électorale nationale électorale, la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, le coordonnateur de cette plateforme politique demande à la communauté internationale de surveiller les opérations électorales. Kyungwa Kumanza indique que la priorité pour l'opposition, ce sont les élections. Il l'a fait savoir hier mercredi, au cours d'une conférence de presse organisée à son domicile. On l'écoute au micro de Colin Djuma Moussampo.
Pour ce qui est des calendriers, le RASOB a constaté que la communauté internationale a accepté cette date du 23 décembre et nous, notre problème ne se pose plus, parce qu'à partir du moment où il y a au moins une date, parce que nous savons que nos amis ont donné cette date à contre-cœur, nous avons pris acte. Nous ne pouvons pas continuer à nous bagarrer sur la date, étant donné que la date est là. D'ailleurs, la CENCO a même dit une date acceptable. Nous aurions voulu que ça soit avant le 23 décembre. Mais bon, il y a ce 23 décembre qui nous colle. Nous avons, nous, RASOP Katanga, pris acte. Mais à condition que les opérations électorales soient surveillées par la communauté internationale. Transition sans Kabila, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est élection sans Kabila. Oui, il y a une nuance. Kabila ne peut plus briguer un troisième mandat.
Sécurité à l'est du pays. Au nord Kivu, la neutralisation de l'ADF et la sécurisation des frontières entre la RDC et l'Ouganda fait l'objet d'une réunion depuis cet après-midi entre les forces armées de ces deux pays. Les discussions ont lieu à Kasindi-Lubiria, une localité congolaise située à plus ou moins 90 km au nord-est de la ville de Beni et frontalière de l'Ouganda. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Cette réunion réunit quelques officiers supérieurs et généraux des FRDC ainsi que ceux de l'armée ougandaise UPDF. La délégation de l'armée ougandaise est conduite par le brigadier Michael Kabango, commandant de la 5e division infanterie de l'armée ougandaise, et celle des FRDC est dirigée par le général Marcel Mbangu, commandant des opérations Sokola 1 Nord. Selon des sources sécuritaires, les discussions tournent autour de la sécurisation des frontières entre la RDC et l'Ouganda ainsi que la problématique du groupe armé de l'ADF. D'après la même source, au cours de cette réunion, les FRDC et l'UPDF discutent pour avancer sur la planification et les débuts des opérations conjointes entre la RDC et l'Ouganda pour neutraliser l'ADF actif dans les territoires de Beni, une version jusque-là non encore confirmée ni démentie par des sources militaires. Signalons en fait que cette réunion entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise intervient pendant que de nouveaux renforts des FRDC en provenance de Kisangani sont déployés depuis mercredi dans la région de Beni. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
De son côté, la Tanzanie demande l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat par des présumés rebelles ougandais de l'ADF de ses 14 soldats servant sous le drapeau de l'ONU en RDC. Son premier ministre Kassim Majaliwa l'a déclaré aujourd'hui lors d'une cérémonie à Dar es Salaam en l'honneur de ses soldats dont les corps ont été rapatriés lundi. Nous espérons que les Nations Unies vont le faire rapidement, a-t-il ajouté en présence de Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Pour sa part, le général Venance Mabeyo, chef de l'armée tanzanienne, a déclaré qu'un soldat était toujours porté disparu et 14 autres soignés dans les hôpitaux. Une autre cérémonie d'hommage sera organisée demain à Goma en présence de Jean-Pierre Lacroix qui rencontrera les plus hautes autorités congolaises ce week-end. Nous restons toujours dans cette partie du pays. Les forces armées de la RDC déployées dans la région de Rugari et Rumangabo, respectivement à 40 et 50 km au nord de Goma, sont indexées dans plusieurs violations contre des civils. C'est dans le territoire de Rutshuru. Depuis deux mois, ces militaires venus de Kitona au Congo central font vivre un véritable calvaire à la population civile. Pillage des récoltes, vol d'argent, des téléphones, rien ne passe sous leurs yeux si l'on en croit les notables ainsi qu'à la société civile dans la région. Le secteur opérationnel militaire Sokola 2 confirme que des investigations sont en cours et que les coupables subiront la rigueur de la loi, comme le dit Gisèle Cage.
Nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Nos récoltes, haricots, pommes de terre notamment, sont pillées dans les champs ou ravis auprès de paysans qui les transportent, déclare un notable à Rumangabo, 50 km au nord de Goma. Ces jeunes militaires, comme on les appelle à Rugari et à Rumangabo, ne laissent rien passer depuis qu'ils sont déployés il y a deux mois dans cette région en provenance de Kitona. La nuit comme le jour, ils fouillent les passants, ravissent téléphones, argent et pillent même les animaux de la basse-cour. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 affirme avoir reçu les mêmes plaintes et informe que des enquêtes sont ouvertes. On écoute son porte-parole. Le major Ndjike Kaiko.
Je crois que tout s'avère que c'est exact, les responsables seront interpellés. Il n'est pas autorisé à un militant de se livrer à ce genre de pratiques, il y a un travail qui est en train d'être fait. En ce sens, il s'avère que c'est exact, les responsables seront déférés devant la justice.
Pour certains responsables militaires dans la région, ces militaires du régiment venus de Kitona n'ont pas de fonds de ménage, raison pour laquelle ils vivent sur le dos de la population. Mais pour le major Ndike Kaiko, les militaires sont très bien servis et rien ne peut justifier leur comportement. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
À Bukavu, par contre, on a déjà dépassé l'étape des investigations. Le jugement rendu hier à Kavumu, par la Cour militaire du Sud Kivu suscite l'espoir au sein de la communauté. La majorité de la population de cette partie du territoire de Kabare déclare que la justice a bien fait son travail en condamnant le député Batumike avec ses miliciens à la prison à perpétuité. Par contre, les proches des personnes condamnées encouragent ces derniers à interjeter appel, estimant que la Cour militaire du Sud Kivu n'a pas bien dit le droit. Le député Batumike et consorts étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité par viol et meurtre, participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes ou des munitions. Jean Kassami nous en dit plus.
Sur le total de 18 inculpés, le député provincial Frédéric Batumike avec du membre de sa milice Jeshi Layesu ont écopé la peine à perpétuité. La plupart des habitants de Kavumu victimes des exactions commises par cette bande voient venir un lendemain meilleur.
Nous espérons, avec ce qui est fait, que la paix pourra revenir. Ceux-là qui devraient être condamnés, ils ont été selon les griefs qui étaient à leur charge. Et ceux-là qui ont été acquittés, la justice a trouvé légal de les acquitter selon les jugements.
Le président de la cour qui a prononcé la sentence accorde aux condamnés le droit d'interjeter appel dans les délais qui leur est reconnu par la loi. Un extrait du jugement rendu par le lieutenant-colonel magistrat Kisele Mouké.
Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à la peine unique la plus forte, soit à la peine de servitude pénale à perpétuité, Batumike Rugibanya, Magaju, Mushagalusha, Bufole, Polepole, Zirimingi, Shamboko, Shamavu, Tindula, Moussa, Soumaïl Zaïroua.
La cour a révélé que la milice de Frédéric Batumike s'approvisionnait en armes et munitions au Burundi. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Cap vers le Kasaï central. Des structures de protection d'enfants ont pris part hier, mercredi, à Kananga, un atelier de formation sur l'éducation au risque des mines et restes explosifs. À l'initiative de l'ONG Mouvement pour le Développement Intégral MDI, cette activité organisée avec l'appui de l'UNICEF a voulu amener ces organisations à protéger les enfants de la région du Kasaï qui, dans certains endroits, régorgent encore des engins non explosés. La coordonnatrice de l'ONG MDI, Rose Metaokito, au micro de François Kadima.
On doit d'abord identifier l'engin, parce que si on l'identifie pas, on ne saura pas vraiment se protéger. Et l'enfant est trop curieux. La curiosité de l'enfant fait à ce qu'il puisse ramasser n'importe quoi qui se passe, qui brille dans ses yeux. Alors, on fait identifier aux parents les engins qui peuvent exploser. Quand ils les connaissent, alors ils ont le message qu'ils vont aller dire aux enfants de ne pas toucher, de ne pas jouer avec, de ne pas s'approcher avec pour éviter les accidents. Nous avons noté qu'il y a des engins. Par exemple, ce que nous appelons les restes explosifs de guerre qui ont été largués pour exploser mais qui n'ont pas explosé. À Matamba, dans le territoire de Kazumba, il y a un engin, une fille qui ramassait les avocats et a cogné sur cet engin qui a explosé et elle a été mutilée. Ce qui prouve que c'est un indice, c'est une évidence qui prouve qu'il y a des engins et que d'autres enfants qui ne sont pas sensibilisés, qui ne sont pas informés, peuvent aller toucher.
Et cette nouvelle qui suscite l'intérêt concernant l'énergie électrique pour finir cette page nationale. Dans le cadre du développement durable dans les milieux urbains et ruraux de la République démocratique du Congo, l'opérateur cellulaire Orange RDC lance Orange Énergie. Il s'agit d'un service innovant d'abonnement à l'énergie solaire à destination de la population congolaise. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi 14 décembre lors d'une conférence de presse à Kinshasa. D'après le directeur de ce projet, Hakim Moussimoua, il ne s'agit pas de remplacer le courant électrique, mais il s'agit d'une alternative pour les familles afin de continuer à bénéficier de l'énergie, ce qui constitue l'essentiel au quotidien. Les détails avec Jacques-Yves Molima.
L'équipement donné en location et les souscripteurs n'aura pas besoin de garanties ou de comptes bancaires pour s'en enquérir. C'est un service qui est accessible à tout abonné Orange. Il concerne non seulement les ménages, mais aussi les entreprises et autres professionnels. Mais de quoi est composé ce kit? Réponse du directeur projet, Hakim Moussimoua.
C'est un kit constitué d'un panneau solaire, d'une unité centrale, mais une unité centrale intelligente qui nous permet de monitorer tout ce que vous faites avec ces kits et les lampes avec abat-jour, d'une radio, des câbles USB pour charger 5 téléphones, d'une torche mobile et bien sûr d'un téléviseur.
Plusieurs abonnements sont disponibles dans le souci bien évidemment de s'adapter au rythme de vie de la population. C'est notamment des abonnements hebdomadaires, mensuels et même trimestriels via Orange Money. Le directeur projet nous donne ici les avantages et les interdits.
Vous pouvez utiliser les décodeurs pour pouvoir voir les chaînes câblées avec la même énergie. C'est la seule chose que nous pouvons autoriser. Mais vous ne pouvez pas brancher d'autres accessoires, vous ne pouvez pas brancher un fer, vous ne pouvez surtout pas utiliser votre téléviseur.
Notons que les études sont en cours pour améliorer les services et offrir beaucoup d'autres avantages, d'autant plus que le groupe Orange est partenaire de la COP21 et milite pour l'utilisation responsable des ressources environnementales.
Actualité Afrique Monde.
Et nous partons du Kenya où l'ONG Human Rights Watch dénonce de nombreux viols commis dans ce pays, notamment par les forces de sécurité durant les violences qui ont émaillé les 4 mois de période électorale. Environ la moitié des 65 femmes interrogées ont dit avoir été violées par des policiers ou des hommes en uniforme, indique le rapport de l'ONG publié ce jeudi. D'autres survivants disent avoir été violées par des civils. L'ONG souligne que la plupart des violations des droits de l'homme ont eu lieu dans des bastions de l'opposition. La première ministre britannique Theresa May s'est dite déçue ce jeudi de l'adoption par son Parlement d'un amendement octroyant à celui-ci un droit de veto sur l'accord final avec l'Union européenne sur le Brexit. Elle assure tout de même que son gouvernement est en bonne voie pour tenir ses promesses sur le Brexit. Et puis, Vladimir Poutine a expliqué ce jeudi la marginalisation de l'opposition libérale en Russie par le fait que les Russes ne veulent pas de coup d'État comme en Ukraine, où le mouvement du Maïdan a abouti au renversement du président pro-russe en 2014. Il répondait à la question de la vedette de télévision et candidate à la présidentielle de mars, Ksenia Sobchak, sur l'absence de la passation du pouvoir en Russie et sur les nombreuses entraves dont fait l'objet l'opposition libérale lors de la conférence de presse annuelle du président russe. Et puis, on termine par ces 38 djihadistes condamnés à mort pour terrorisme qui ont été exécutés par pendaison ce jeudi dans la prison de Nasiriyah au sud de l'Irak en présence du ministre de la Justice. Il s'agit du plus grand nombre d'exécutions en Irak depuis celle des 42 condamnés menés le 25 septembre dans la même prison. Les 38 condamnés appartenaient à Al-Qaïda et Daesh et étaient accusés d'avoir mené des activités terroristes.